Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble et de chanter ces beaux cantiques, ouais, qui évoquent eh bien tout simplement ce merveilleux sacrifice de Christ pour chacun d'entre nous, hein, contemplation de tout ce qu'il a pu endurer, toutes ses souffrances, hein, qui nous vaut aujourd'hui d'être sauvés. Voilà, le tout est accompli, a été eh bien réalisé, hein, tout est parfait aujourd'hui, nous sommes dans une plénitude de salut. Par le fait de Jésus, pas pour nous, hein, bien sûr, mais parce que nous croyons, eh bien, qu'il a fait à notre place ce que nous ne pouvions pas faire. Alors, on peut lui dire, comme dans ce cantique, eh bien, Seigneur, reçois notre amour. Voilà. Je vous propose que nous lisions un premier passage dans notre Bible. Celui-ci, nous allons le trouver dans le livre des Actes des Apôtres, dont nous ne sortirons pas, puisque nous allons faire une seconde lecture dans ce texte, qui viendra compléter donc cette lecture dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 29. Et c'est Paul qui avertit l'Église de son temps, mais l'avertissement vaut aussi pour nous après 20 siècles de christianisme. Et Paul dira à tous ces anciens, tous ces responsables d'église qui étaient venus le rejoindre parce que c'était sa dernière mission, hein, et il dira « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Alors ceci dit, nous allons, eh bien, revenir sur un sujet que nous avions commencé à l'automne de l'année passée. C'était une série que nous avions intitulée « Délivrance ». Alors nous avions parlé de beaucoup de choses, de ce monde de l'invisible, de ce monde qui, quelque part, contrefait le message de l'Évangile et voir les œuvres de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit. Et nous avions donc la dernière étude se situait dans le livre des Actes, alors maintenant chapitre 13. Nous avions intitulé cette première et cette deuxième partie « Dénoncer l'invisible ». Et c'est important que dans le monde dans lequel nous sommes, l'Église, chacun d'entre nous, nous ayons le discernement, que nous demandions à Dieu qu'il nous donne la perspicacité spirituelle. Et ça, c'est quand même indispensable dans un monde qui s'enténèbre de plus en plus, où la visibilité se fait de plus en plus difficile, où nous ne savons plus dans quelle direction nous allons, nous voyons les choses, alors nous allons revenir sur cela. Donc c'est la deuxième partie, et j'aimerais que nous lisions donc Actes chapitre 13 verset 6, on va reprendre ce texte et je ferai un court récapitulatif avant d'aller plus loin, naturellement, dans l'étude. Alors, Actes 13 verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, il s'agit tout simplement de Barnabas et de Saul, qui va bientôt s'appeler Paul, l'apôtre Paul, d'accord? Donc, Barnabas et Saul trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Voilà donc cette deuxième partie de ce qui avait été commencé précédemment. Il y a un homme qui est désigné comme magicien, déclaré comme faux prophète juif. Déjà prophète, faux, c'est déjà quelque chose, mais en plus c'était un homme qui relevait, certainement par éducation et par origine, de la foi des juifs, donc d'Israël. Il s'appelait Bar-Jésus et il s'était, je dis bien, il s'était introduit dans les sphères du pouvoir. Le pouvoir, c'était l'administration de l'Empire romain sur, tout simplement, eh bien, l'île de Chypre. Et comment avait-il fait? Comment il s'était, comme nous l'avons dit, il s'introduira parmi vous des hommes avec des doctrines pernicieuses. Mais en tous les cas, il ne s'était pas introduit pour passer un bon moment dans ces sphères, mais c'est pour y influencer, pour y apporter, eh bien là, la contradiction, y apporter une note qui était particulièrement, comment dire, pernicieuse, pour dénaturer, pour faire dévier ce qui, dans un premier temps, était du cadre naturel, amener les gens à penser à l'envers, les amener à une fausse croyance et plus, davantage, à une adoration dans ce Dieu qui est le Dieu et le prince des ténèbres. Il était bien naturellement et bien dans son rôle. Et nous voyons qu'il agissait auprès de cette autorité déléguée par d'homme, un homme par homme, délégué par l'empereur. Et ce fameux Sergius Paulus était donc un magistrat de haut rang, proconsul, et nous voyons que, dans un premier temps, cet homme d'autorité, eh bien, s'était probablement laissé influencer. Je reviens sur la signification du nom de ce magicien. Il s'appelle Bar-Jésus. C'est assez paradoxal, parce que Bar-Jésus, ça veut dire « fils de Jésus ». Ou si vous aimez mieux, dans l'Ancien Testament, c'est Josué, parce que Josué et Jésus, c'est pareil. Et un peu plus loin, il est question d'Élimas. Son nom est encore mieux précisé. Dans un premier temps, dans son œuvre subtile, ténébreuse et invisible, opaque, il s'appelle Bar-Jésus. Alors Bar-Jésus, c'est un nom spécieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il a l'apparence de la vérité, mais qu'il n'est pas la vérité. C'est une pseudo-vérité. Et au moment où il va être dévoilé, il va être appelé Élimas. Le mot Élimas, ça veut dire sorcier. Donc, on est au fait de la situation. Un homme puissant, hein. Il était puissant, certainement, en parole. Il était puissant en action, en persuasion. Un homme assurément dangereux. D'autant plus qu'il avait la connaissance aussi de la foi juive. Ce qui n'arrangeait rien, je peux vous dire. Il était en véritablement, eh bien là, complètement en totale opposition avec la pensée de Dieu. Donc je vous ai donné ça parce que, si vous voulez, si vous permettez, c'était un agent double. Ouais, vous savez ce que c'est, vous avez regardé 007, enfin je ne sais pas si vous regardez, après tout ça vous regarde, mais toujours est-il qu'un agent double, voilà, tout simplement. Et comme nous l'avions terminé la fois dernière, il nous est dit que Sergius Paulus était un homme intelligent. Et les derniers mots, vous en souvenez pas, mais je vous les rappelais. Comme beaucoup d'hommes de son temps, ce haut personnage, Sergius Paulus, était en marge de la vie religieuse païenne et ne trouvait vraisemblablement aucune satisfaction dans le scepticisme ambiant qui régnait dans l'Empire, avec cette multitude d'adorations de Dieu, etc., etc., et encore même toutes les philosophies qui couraient, qui avaient cours dans ce moment-là, ni dans les pratiques de la magie. Ouais. Et je voudrais vous dire que toutes ces choses, la philosophie, les religions païennes, la magie, étaient répandues dans l'Empire. Bon, il n'y avait que ça, hein, on peut dire. Et en cela, Sergius Paulus se montre intelligent, bien qu'il va se laisser séduire dans un premier temps par ce fameux Bar Jésus. Alors, c'est ainsi qu'il est intelligent. Et nous pouvons en effet dire beaucoup de choses sur la question. Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais je voudrais ouvrir tout de suite une parenthèse par rapport, avant d'aller plus loin, une petite note. C'est que dire que cet homme est intelligent, il l'était. C'est vrai. Et nous l'affirmons, et ça c'est un avis à tous ceux qui prétendent avec ironie qu'il faut être simple d'esprit pour croire béatement à l'Évangile. Vous connaissez le sermon sur la montagne ? Il n'y a que les simples d'esprit. Voilà, heureux les simples d'esprit. Ça c'est une caricature du monde, offensante et insultante. Cet homme était intelligent. Et pourtant, on va le voir dans la suite du récit, eh bien, il a cru à Jésus. Et quelle influence il a pu avoir après dans son tribunal, dans son palais, etc., etc. Encore une note avant d'entreprendre. Élymas, ou Bar-Jésus, représente le type même du peuple juif rebelle et contredisant frappé d'aveuglement, tandis que Sergius Paulus typifie le monde païen qui s'ouvre à la lumière. Vous comprenez la subtilité? Ça, c'est le côté un petit peu de l'histoire. Vous vous rendez compte comment un juif peut tomber dans la magie et dans les choses les plus abjectes, et qu'un homme qui ne connaît rien, mais simple de cœur, simple d'esprit, mais intelligent, d'une intelligence supérieure, lui va épouser et va embrasser le christianisme naissant. Alors, il se montrait donc intelligent ainsi, et il fit appeler Barnabas et Paul, désireux d'entendre la parole de Dieu. Doublement intelligent, parce que quand il a su qu'il avait un énergumène, que quelquefois il pouvait douter de lui, et que là il a entendu qu'il y avait deux missionnaires qui avaient débarqué dans l'île et qui prêchaient l'Évangile, il en avait eu vent de leur passage, il s'est dit, mais moi je vais les voir tout de suite. Vous savez, ce que j'admire parmi les gens, c'est quand on est capable de faire des comparaisons. Et il y a des gens qui savent que quelque part les choses sont fausses, mais ils n'iront pas plus loin, vous comprenez. Ils se contenteront de cela, de préjugés, de ragots, de choses bassement, tout ce que vous voudrez. Mais l'intelligence, c'est de pouvoir de dire, voilà, je sais ça, mais je voudrais bien savoir. Oser savoir, oser prendre le risque et voir même une aventure de dire, eh bien moi, je voudrais quand même au moins un jour lire la Bible et savoir ce qu'il en retourne dans l'Évangile. Connaître Jésus, connaître cette doctrine. Mais vous avez vu que la majorité, et ce n'est pas une critique, c'est tout simplement une constatation de fait que les gens coincés ou calés dans leur religion disent, ah ben moi ça me suffit, mais qu'est-ce que l'on connaît ? Alors ils se contentent de ça, ils se contentent de dire, eh bien voilà, ben, ça me suffit. Mais on ne rentre pas au ciel et dans le royaume de Dieu avec des « ça me suffit ». La parole de Dieu que nous ouvrons est là suffisamment pour nous amener à développer notre piété, à développer notre foi et en savoir davantage. Et il a été intelligent en tous les cas de dire, eh bien voilà, ce sont des hommes qui annoncent ceci, qui annoncent cela. Eh bien moi je voudrais faire la comparaison, et ça c'est formidable. Priez pour que des hommes soient courageux dans notre monde et dans notre région pour dire, eh bien moi je veux faire la comparaison entre ceci et cela. Et nous sommes là pour les accueillir, pour leur prêcher l'Évangile, naturellement. Alors, il a été désiré d'entendre la parole de Dieu, et je dirais que la véritable intelligence, elle est là. Au verset 8, il nous est dit, « Mais Élymas, le magicien, car c'était ce que signifie son nom, faisait opposition, cherchant à déterminer, à détourner la foi du proconsul. Prendre des raccourcis ou prendre des déviations. Et vous savez, quand on prend des déviations, il y en a beaucoup en ce moment-là autour de nous, hein. Bah, quelquefois, on se trompe, hein. Puis même si vous avez, vous savez, le petit appareil là qui vous dirige, hein, comment on appelle ça? Comment? Ah, GPS. C'est pour vous dire que je suis moderne. Alors, non, moi je préfère c'est avec les étoiles que je me dirige. Mais toujours est-il que une chose qui est certaine, c'est que là vous en sortez plus avec le GPS hein, quand il y a des déviations. Bon, peu importe, trêve de plaisanterie. Il faisait opposition. Élimas s'opposait ouvertement à la vérité et il le savait que c'était la vérité. C'était un ancien juif. Mais quelle contradiction, hein. Et il était dangereux, mais plus dangereux encore parce que il avait une façon de faire qui n'était pas probablement très provocante, et il avait des méthodes insinuantes, et il devait parler avec une certaine élégance. Tout ça s'était bien enveloppé, et à travers cela, eh bien, il faisait passer un message de poison auprès du proconsul et auprès de tous les autres, et il jouait véritablement le mauvais rôle au sein du palais, au sein de ce, où se trouvait naturellement, eh bien, Élimas. Mais que dire? Que dire de l'infiltration parfois dans l'église de Jésus-Christ, où il y a des gens qui font l'œuvre d'Élimas? Alors, ça vous surprend, hein? Mais il y en a. Alors, croyez bien que je suis pas en train de regarder quelqu'un, et pas du tout. C'est un enseignement ce matin. Parce qu'il nous est dit qu'il viendra des faux prophètes. Il viendra des faux docteurs, il viendra toutes sortes de gens, et c'est ce que Paul écrit quand nous avons lu le premier texte. Il s'introduira parmi vous des gens qui viendront avec des doctrines pernicieuses pour détourner de la foi les enfants de Dieu. Alors attention. Et si nous devons porter une attention, c'est que nous devons rester fidèles à la parole de Dieu, nous tenir à ce que nous savons, parce qu'il va y avoir des vents de toutes sortes qui vont souffler sur le monde. Et ça commence déjà à souffler pas mal. Alors, particulièrement parfois auprès des nouveaux convertis, de ceux qui ne sont pas affermis. Moi, je vous demanderai, frères et sœurs, et on le dit, et c'est le travail du pasteur, quand il y a des nouveaux convertis parmi nous, des gens qui découvrent la foi, que vous leur ayez rendu témoignage, que vous les entouriez avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour pour les encourager, pour les exhorter. Mais de grâce, laissez-leur faire leur chemin ou laissez à Dieu le soin de les aider à faire leur chemin. Quelquefois, il y a des paroles qui sont données, il y a des conseils qui sont donnés et qui font qu'ils sont rentrés, mais ils vont sortir. Nous pleurons encore sur certaines situations, et dans toutes les églises, ça existe. Alors, frères et sœurs, priez Dieu plutôt que vous ne parlez. Ça, c'est un conseil. Parce que vous savez, c'est quand même au prix des sacrifices de Jésus que ces gens se sont convertis. Ils ont été plus loin, ils se sont fait baptiser. Certains aussi ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est quand même dommage. Parce que quand on est un bébé, il y a quelquefois des susceptibilités, il y a des toutes sortes de choses, ils sont fragiles. Comme un enfant, il peut y avoir des caprices aussi. Alors surtout, faisons attention à ce que nous leur disons. Entourons-les d'amour, de prévenance, de cette communion fraternelle, mais attention, n'essayons pas de leur inculquer nos convictions à nous. Qui sont peut-être, et puis des nourritures indigestes, ils n'en sont pas encore là. Alors soyons prudents. Un certain pasteur renommé disait, c'est un pasteur que j'aime beaucoup dans la manière dont il présentait les choses, hein, fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, un homme très intéressant. Il parlera de ces Élimas comme des briseurs, des briseurs d'élan et des coupeurs d'ailes. On n'est là pas pour eux. On n'est pas là pour ça, hein. Qui méconnaissent de quelle sagesse ils sont animés. Leurs mobiles sont aussi variés que peu spirituels. Et vous savez, ils se discernent. Et je vais vous donner quelques critères de discernement. Élimas et les autres. Quand dans l'évangile de Jacques, il nous est dit cette parole. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. J'aime bien ça, la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, de vouloir être mieux que les autres, de vouloir doubler les autres, de vouloir vous prétendre mieux que les autres. Et un esprit de dispute parce que on prétend que ce que nous croyons c'est le mieux et puis les autres se trompent. Alors ne vous glorifiez pas et ne vous mettez pas contre la vérité, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Ça c'était vraiment le cas des limaces. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est ensuite pacifique. Pacifique, c'est le mot paix, hein. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité. Elle fait les choses en face et d'une manière. Elle n'a pas d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Quel rappel pour l'Église de tous les temps. N'est-ce pas? Ce que nous dit l'apôtre Jacques. Et c'est vrai. Dans une certaine circonstance, on est surpris de voir Pierre, vous savez le grand apôtre Pierre, celui qui est toujours le premier, c'est lui qui pose des questions à Jésus, un jour, jouer ce mauvais rôle. Oui, oh Seigneur, que cela ne t'advienne. Jésus lui dira, mais tes pensées ne sont que des pensées humaines. Oui, et un peu plus tard, il lui dira, mais en effet, que l'esprit qui est en lui, c'est un mauvais esprit. Un mauvais état d'esprit. On peut quelquefois être animé de ce mauvais esprit sans s'en rendre compte. C'est pour ça que nous avons besoin du discernement. À commencer par nous-mêmes et à juger ou à analyser nos paroles, nos actes et nos attitudes. Il arrive quelquefois que même les chrétiens ne sont pas toujours inspirés par le Saint-Esprit. Ouais, ça peut arriver. Dixit Pierre, hein, si Pierre y est passé, puis il y en a eu d'autres, hein, naturellement. Le diable est un fin suggesteur. Et ainsi, parvenir à détourner d'une manière tellement innocente le plan de Dieu de sa destination. C'est ce qui se passe. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Nous ne sommes pas des hommes à détourner de la foi, nous sommes des hommes qui vont favoriser d'autres personnes à marcher dans la foi et à suivre le Seigneur Jésus. Ça, c'est quand même important. L'objectif d'Élimas était clair. Il résistait aux apôtres, à la prédication des apôtres. Il cherchait à déterminer et à détourner de la foi avec un but intéressé. Parce que ce qui l'intéressait, c'est de garder son influence. Et quand il a vu les apôtres arriver et prêcher tel ou tel message, qui allait amener le proconsul, homme qui était en apprentissage et en découverte, il s'est dit, mais moi, je, avec des gens comme ça, j'ai entendu dire qu'il faisait des miracles, j'ai entendu dire ceci et cela, mais je vais être mis à la porte, moi je vais être au chômage, je vais être congédié. Et il ne voulait pas perdre sa réputation et son influence, alors il a sorti le grand jeu. C'est-à-dire que il s'est dit, ben moi je vais faire tout mon possible pour véritablement eh bien casser ces hommes et casser le message qu'ils apportent. L'opposition à la parole de Dieu, pour soi, est une chose. On peut être oui ou non, d'accord, avec la parole de Dieu. Ça, c'est une chose. Mais, plus grave, empêcher ou entraver l'œuvre de Dieu chez les autres, eh bien, ça, c'est gravissime. C'est ce que Jésus dira dans le réquisitoire contre les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23, il leur dira, vous, hypocrites pharisiens, non seulement vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, mais vous empêchez les autres d'y rentrer. Jésus était carré là, hein. Je peux vous dire que ça faisait partie des élimas du temps aussi, hein, ces gens-là. Le diable, par le truchement de ses agents, trouve toujours un malin plaisir à susciter des obstacles. On en sait quelque chose, hein, les uns et les autres. Ah, ça c'est sûr. C'est la difficulté majeure de l'évangile. Et il faut le savoir, nous sommes là des témoins de Jésus, quand bien même nous aspirons, nous prions et nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour faire tout ce qui est en notre pouvoir de faire pour que véritablement le nom de Jésus soit connu et reconnu et adoré, je peux vous dire que ça ne plaît pas à l'adversaire. Il mettra autour de nous des gens qui vont nous discuter. Alors ne vous découragez pas devant les oppositions. Quelquefois, nous avons entendu des chrétiens larmoyer en disant « Mais j'ai voulu faire ceci, je me suis engagé à cela, mais il y a tant de problèmes pour faire ceci et cela. » Eh bien justement, c'est de bonne guerre. C'est le bon combat de la foi. Continuez, ne baissez pas les bras. Parce qu'à ce moment-là, il y en a un qui a gagné. Hein. Il veut se servir de chacun de vous, les uns, les autres, Ben alors vous allez avoir des oppositions et vous allez avoir des tracasseries, ça c'est sûr. Mais il faut tenir le coup, parce qu'on sait le but. Alors, ça, il faut le savoir, il faut le discerner, mais plus encore, nous avons les armes pour le dénoncer. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, Saul, qui est pour la première fois appelé dans le Nouveau Testament Paul, Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, c'est la première fois, il a été rempli du Saint-Esprit par une manifestation, une effusion du Saint-Esprit à ce moment-là, et il a fixé les regards sur lui, sur Élimas, et lui a dit, naturellement, ce qui va suivre, ce que nous allons voir d'ici quelques instants. Parce que Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, a touché du doigt le péché abominable qu'il y avait chez Bar-Jésus. Péché abominable, qui est avant tout un péché de l'esprit, c'est pas le péché de la chair. Quelle qu'en soit la nature, le péché attriste le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose, mais s'il y a quelques serviteurs perspicaces, comme Paul l'était, qui discernent ce péché de l'esprit, et le dénonce dans la prière devant Dieu, tout ce que vous lirez sur la terre sera le délié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Le Saint-Esprit agit pour redresser ce qui est tordu dans le secret, ce qui ne peut pas se voir, mais qui a été révélé par Dieu au fond de notre cœur, et qui va véritablement venir, tout simplement en pleine lumière, si besoin est. Et parce que les péchés de l'esprit, parce que c'en est un, ceux de la chair relèvent de la faiblesse humaine, mais là, ça va autrement, sont de loin les plus graves. Les propos extrêmement sévères de Paul font le traduire, parce que c'est l'indignation du Saint-Esprit. Quand Paul a été rempli du Saint-Esprit, il y a eu comme une indignation. Comme il aura également, de même, devant les statues lorsqu'il sera à Éphèse. Il a été irrité à l'intérieur de lui-même. Ouais, irrité. Et je dis que tout vrai chrétien baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, nous avons ces mêmes réactions. Et c'est sain. Je dis que c'est normal. C'est normal. Et heureusement. Puisque c'est quelque chose de répugnant, on ne peut tergiverser. Paul va dire, homme plein de toute espèce de ruse. Vous verrez qu'il prend pas, il va pas par quatre chemins. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Il y va, hein. C'est pas fils de Jésus, hein, pas fils de Josué, c'est pas un fils d'Israël. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voilà ce qu'il va entendre à ce moment-là. Remarquons que ce type d'admonestation a toujours été dirigé à l'adresse de personnages ténébreux, de gens qui touchaient à l'occultisme, ou encore de ceux qui refusent le témoignage de la vérité, tout simplement, alors que la vérité, elle est probante et elle est tangible. Vous savez que Jésus a eu un autre langage avec les pécheurs de la chair, les publicains, les prostituées et tout cela. Ouais. Mais avec les pharisiens, avec les sadducéens, les scribes ou les docteurs de la loi obtus dans leur dogme. Jésus leur a pas fait de cadeau, hein. Hypocrite, c'est arrivé très souvent. Race de vipères. Waouh! Jésus ne, véritablement, dit la vérité. Il le déclare. Et puis Paul va faire exactement la même chose. Paul est vraiment courageux dans cette circonstance. Parce que son courage va être manifesté peut-être devant la tentation qu'il aurait pu ou qu'il peut avoir dans de telles situations, c'était de se taire. Oui. Quelquefois, on peut être confronté avec des personnages qui sont véritablement, que l'on ressent peut-être plus fort que nous, hein. Mais bon, c'est pas une question de rivalité et de mesure dans cette affaire. Ou tout simplement, de mollement réagir par fausse charité, ou encore, un faux respect du prochain, ou encore par une fausse notion de la liberté des autres, en disant « je sais ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas ». Parce que bon, je veux pas… voilà, c'est ça. Mais vous savez, le salut des hommes est plus important, hein. Bon, Il y a toujours le fond dans lequel nous pouvons avoir raison, et puis la forme. Et la forme, nous n'avons pas toujours raison. Bon, là, on s'aperçoit que Paul y va. Hein? Mais néanmoins, il y a peut-être aussi le Saint-Esprit est capable de nous inspirer pour nous dire de dire les mots qu'il convient pour dénoncer d'une manière catégorique et vigoureuse eh bien, le péché et le mal, tout en gardant la mesure pour permettre aux pécheurs, non pas d'être écrasés, pilonnés, coupés en petits morceaux, mais de pouvoir se relever, de se détacher de son péché, d'en prendre conscience. Après, c'est le Seigneur qui nous inspire, hein, naturellement. Il nous est dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, Paul, quand il a parlé à ce moment-là. À vrai dire, ce n'est pas Paul qui va parler, mais c'est l'Esprit auquel le serviteur laisse toute liberté d'action. Voilà. Et nous, nous avons des paroles à donner. Nous avons des choses à dire. Et laissons le Saint-Esprit nous dire ce que nous avons à dire. Le Saint-Esprit viendra et il vous dira tout ce qu'il convient de dire. Connaissez ça, c'est dans l'Évangile aussi. Bah, c'est l'exemple de Philippe. Hein. C'était l'exemple également de Pierre et de Jean quand ils sont venus à Philippe, pardon. À Samarie. Je peux vous dire qu'avec Simon le Vasicien, il en a entendu 36 chandelles. Hein. Tu as un fiel amer à l'intérieur de toi-même. C'est terrible, hein, toutes ces choses. Je dirais qu'il n'y a que l'Esprit, le Saint-Esprit, qui puisse contrecarrer les plans délétères de l'ennemi et le faire reculer. Alors n'inventons pas des stratégies nous-mêmes, mais laissons faire le Seigneur. Mais avant cela, il faut les percevoir. Donc il y a nécessairement un équipement indispensable pour l'Église d'aujourd'hui. C'est le don du discernement des esprits. Et ça fait partie des 9 dons du Saint-Esprit. Il y en a 3 vocaux, ceux que nous exerçons dans nos réunions. Il y en a 3 de puissance, manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour la délivrance. Il y en a 3 qui sont des dons de révélation. Là, ce sont des dons de révélation. Discernement des esprits. Pour avoir le discernement des esprits, il faut être baptisé du Saint-Esprit, on le comprend. D'accord? C'est la perception surnaturelle dont l'objet est spirituel, en l'occurrence le discernement du monde invisible. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable et ce qui vient de la chair. Et ne mélangeons pas les gens. Il y a des gens qui voient le diable partout, alors que finalement, eh bien, c'est la chair. C'est le péché des hommes. Il y a des gens qui diront, eh bien, le contraire. Ou qui verront Dieu partout. Mais non. Il y a des choses qui sont très claires. C'est une pénétration de l'esprit immédiate que Dieu nous donne à ce moment-là. Et c'est pourquoi nous avons rappelé il y a à peu près une dizaine de jours, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez des esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On saute pas sur tout ce qui bouge, mes frères et sœurs. C'est pas nous qui conduisons la bataille, c'est le Seigneur qui nous conduit dans ce combat. Parce qu'autrement, on va en ressortir nus et blessés, si on y va nous-mêmes. Et on discréditera l'Évangile. Alors éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parfois, par-delà tout ce que nous pouvons connaître, il faut nécessairement le don de l'esprit. Et il est donné pour connaître la source et la véritable nature de n'importe quelle manifestation surnaturelle. Il peut y avoir notre jugé, il peut y avoir notre expérience, il peut y avoir tout cela, mais quelquefois c'est pas suffisant. C'est l'histoire de la pythonisse dont nous reparlerons peut-être un de ces jours. Vous savez, cette femme qui disait la bonne aventure et qui a rencontré Paul et Silas dans une circonstance qui nous est rapportée dans l'Évangile un peu plus loin. Et cette femme, à s'y méprendre, aurait pu être prise et véritablement reconnue comme une servante de Dieu. Parce qu'elle disait, voici ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, ils vous annoncent la bonne nouvelle. Rien de plus vrai, parce que Paul et Silas étaient des serviteurs du Très-Haut, ils annonçaient la bonne nouvelle. Elle a suivi les apôtres pendant à peu près 3 jours, au bout d'un certain temps, comme nous le voyons avec Paul dans cette circonstance, Paul a été embarrassé, il a ressenti au bout d'un certain temps que cette femme criait derrière eux. Elle faisait de la publicité, hein, ils pouvaient se dire, mais c'est formidable, elle fait de la propagande pour nous, on va avoir un monde fou, hein, à nos réunions. Mais il a senti à un moment donné, parce que l'esprit était là, à travers une fatigue, à travers une lassitude, à travers une, comme un agacement, que finalement elle ne disait pas la vérité, elle était animée par le diable pour contrefaire la vérité, pour casser l'œuvre et le message de l'apôtre Paul, en donnant une part de vérité, mais ne disant pas toute la vérité. Et ça, c'est la subtilité de l'adversaire qui peut vous donner de croire et qui peut envoyer des messages à 97%, 98% de vérité, avec 3% ou 2% de poison mortel. Qu'est-ce qui va subsister? C'est le poison mortel. C'est le poison mortel. Eh oui. L'Église a besoin de rentrer dans ces discernements. Elle a besoin de... Parce que c'est dans la parole, et nous sommes enseignés naturellement par cette parole. Sachez, je rappelle, que le diable est passé maître dans l'art de la contrefaçon, particulièrement dans le domaine du miraculeux. Et quelque part, eh bien, on peut se laisser prendre les uns les autres. Et il est dit, mais ne cesseras-tu de pervertir les voies de droite du Seigneur, annoncé naturellement, eh bien, à comment il s'appelle, Simon, le magicien. Par le biais de la séduction, de l'orgueil, l'aveuglement, tous les moyens sont bons pour circonvenir, dominer et asservir, et le diable a tout un équipage ou un équipement, voire même un arsenal. Subtilement, il pousse à la confusion des sentiments. Il faut faire attention en tant que chrétien. Une des choses qui peut-être est le plus sensible chez nous, c'est le sentimentalisme. Et quand il nous prend par le cœur, quand il nous prend par les sentiments, il peut nous tirer bien loin comme ça. Parce que le sentiment n'est pas raison. Et attention, parce que là, c'est très subjectif, et il s'en sert. Il s'ingénie à exaspérer les besoins naturels de nos sens. Là aussi, il peut nous attirer dans l'erreur. Il invite à l'irresponsabilité, il excelle dans l'accusation, il manipule, mais il ne réussit jamais autant que quand il anesthésie et maintient les hommes dans un état de passivité. On devient... On écoute, on ne pense plus, et là, c'est particulièrement dangereux. C'est pourquoi Paul dira à un moment donné, « Soyez fervents d'esprit !» Frères et sœurs, je vous exhorte à être fervents d'esprit et à demander à Dieu qu'il vous donne d'être fervents d'esprit, que vous soyez toujours en capacité de réagir, de juger comme il faut juger, de laisser le Saint-Esprit bien se manifester, parce qu'autrement on s'endort, et après, tout est bon. Tout est bon. Il n'y a plus de discernement. Et c'est grave. C'est voire même très dangereux. Soyez fervents du Saint-Esprit. Et vous savez, les victimes du choix de l'adversaire, c'est particulièrement les enfants de Dieu qui connaissent la parole. Où là, eh bien, il va faire un petit peu le rôle de Delila, qui prend sur ses genoux et dans ses bras le pauvre Samson. Tout simplement, gentiment, en lui coupant les cheveux, vous comprenez? Et lui, il s'endort. Voilà. Ben faisons attention de ne pas nous faire couper les cheveux. Hein. Enfin, pour ceux qui n'en ont plus beaucoup, c'est pas grave. Mais enfin, bon, il doit rester encore pour certains, excusez-moi, hein, pour ceux qui... Voilà, je vous fais mes plus plates excuses. Mais quand même, vous savez, l'histoire de Dalida, c'est ça. Hein, ouais, et ben le diable avec l'Église, c'est ce qu'il fait. Hein. Parce que vous savez, à ce moment-là, quand on n'a plus les cheveux de Samson, vous connaissez? Eh bien, on perd notre force essentielle, notre force spirituelle. Et puis, on va s'endormir dans le sentiment. Parce que quand même, Samson, il avait été vraiment endormi par l'amour. Je ne sais pas qui était Dalida, mais enfin, en tout cas, elle avait su s'y prendre. Mais quand il a ouvert les yeux, on lui a crevé aussitôt. Ouais, c'est terrible, hein, dramatique, hein, parce que là, vous ne voyez plus rien du tout. Il avait les yeux crevés. Terrible. Qu'est-ce que c'est que la passivité dans le monde des enfants de Dieu, ou dans le monde en général? Eh bien, moi, je dis que ça, c'est l'arme de prédilection de l'adversaire pour nous faire du mal et nous amener dans une fausse route. Et on se comprend pourquoi Paul a dit à un moment donné dans Éphésiens, mais soyez remplis de l'esprit, parce que c'est un gage pour échapper aux tentations d'engourdissement de l'ennemi qui l'amène subtilement, tranquillement, sur nous. Vous savez que sur un champ de bataille, je vais en finir, la mobilité des combattants leur assure, leur donne la survie. C'est quand un soldat va d'un endroit à un autre, parce que tant qu'il reste là dans un endroit et qu'il ne bouge pas, dans une tranchée ou autre, caché derrière un endroit, il sera toujours vu par l'ennemi à un moment donné. Parce que l'ennemi cherche, il guette, il épie. Mais quand vous êtes là et que vous êtes vous bougez, eh ben c'est le meilleur moyen pour garder sa vie sauve. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Il faut bouger spirituellement. Il faut animer notre vie spirituelle. La parole de Dieu est là pour nous le rappeler. La prière est là pour nous le rappeler. Parce que tant que vous restez, eh bien, inerte, vous savez, il y en a un qui vous attend. il va nous réveiller. Enfin, il va d'abord nous endormir, il va nous réveiller. Vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Ça reste toujours aussi d'actualité. Nous devons apprendre à rester éveillés et pouvoir réagir immédiatement dans le discernement que Dieu nous donne, si c'est bon, si c'est mauvais, si ça vient de Dieu, si ça vient de nous, ou si ça vient de l'adversaire, sans attendre un état quelconque qui va s'installer. Et ce synonyme que nous pouvons donner à cette installation, à cet endormissement, ça devient un lien. Oui, le Seigneur est venu pour nous défaire de nos liens, y compris celui du sommeil, de l'apesantissement, de la lourdeur. Vous connaissez l'histoire des vierges folles? Ah oui, elles étaient bien endormies, hein. Mais elles étaient liées, parce que quand elles ont voulu se lever, il n'y avait plus rien à faire. Vous savez que Jacques nous dit cette parole, résistez au diable. Ben pour y résister, il faut d'abord y croire. Pour y résister, il faut connaître sa stratégie. Pour y résister, il faut savoir déjà ses desseins. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous sommes chrétiens, nous n'ignorons pas les desseins de l'adversaire. Alors nous tenons en garde. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et Pierre va rajouter cela, résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce que nous entretenons notre foi? Est-ce que nous voyons si véritablement elle est encore active ou pas? Il nous est dit à un moment donné, c'est Paul qui l'écrit, d'exercer notre foi. Regardez si vous êtes encore dans la foi. Et non pas tombant dans une torpeur religieuse qui vous met là, qui vous donne la paix, qui vous donne un contentement de conscience ou une tranquillité de conscience, mais vous n'êtes plus actif à ce moment-là. C'est comme ça qu'on s'endort, c'est comme ça que les grandes religions se sont endormies. Alors je dirais que l'esprit est parti, mais les monuments restent. Mais qu'avons-nous à faire des monuments? Ce qui est important, c'est la vie. Et c'est la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Le verset 11 nous dit ceci, je vais finir. « Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Alors double ténèbre parce qu'il était déjà dedans, mais là ça va être un rajout, nous pourrions dire, par une prononciation de condamnation. Remarquons encore que c'est le Saint-Esprit qui remplit l'apôtre Paul, qui va lui-même devoir annoncer la sentence à l'encontre d'Élimas, et en aucun cas le serviteur de Dieu sanctionne. C'est pas lui qui sanctionne, c'est le doigt de Dieu à ce moment-là. Nous n'avons pas à sanctionner qui que ce soit. C'est Dieu. Quelquefois, Dieu nous donne des tâches, et moi ça m'est arrivé d'avoir des tâches difficiles, de devoir faire, reprendre, confronter. Je peux vous dire que là, c'est vraiment le plus pénible de la vocation pastorale. Ouais, parce qu'on le fait vraiment pas en disant, voilà, je viens et c'est comme ça, et ceci et ça, ça sera pas autrement. C'est difficile, hein, même quand c'est Dieu qui nous le demande. Je sais qu'il y a des gens qui le font sans que Dieu leur demande. Mais bon, ça c'est leur affaire, hein. Souvent ça se termine mal. Mais quand même, ça c'est vraiment le côté le plus malaisé dans la vocation pastorale. Mais là c'est le Saint-Esprit, parce que l'homme, Paul, n'en est que l'agent tout simplement, et de fait la puissance divine se révélera à l'instant, tu seras aveugle pour un temps, et de fait l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Waouh, c'est quand même assez difficile à la fois à le dire, à vous le dire, et puis à le constater. Mais néanmoins, je voudrais dire que Dieu juge avec mesure, ce qui laisse toujours quelques espoirs de salut pour Élimas. Et ça, moi, je bénis Dieu pour sa grâce et sa miséricorde, même pour les pécheurs. Ouais. Parce que, dans cette circonstance, notre brave Élimas, il aurait pu finir comme Saphira et Ananias. Waouh, là, dites donc, hein. Il n'y avait pas de défibrillateur à ce moment-là, hein. Parce qu'ils sont tombés raides morts, hein. Et pourtant, je suis quand même assez surpris que dans le premier problème, c'était une histoire de mensonge, de travic et tout ça, mais de mensonge au Saint-Esprit. Pourquoi as-tu osé mentir au Saint-Esprit? Et là, c'est pourtant un péché qui touche finalement eh bien, la dimension de l'occultisme et tout cela. Alors on va voir, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Graduation dans la cécité absolue. Oui, l'obscurité et les ténèbres. L'obscurité d'abord, c'est sombre, et puis ensuite c'est les ténèbres. Mais c'est comme c'était un homme de ténèbres, il aurait dû être habitué, hein. Mais c'était pour lui montrer que là, il était vraiment dans les vraies ténèbres, mais il l'était déjà avant, mais il l'ignorait, en quelque sorte. Alors il cherchait en tâtonnant qui pouvait le mener, le conduire. Lui qui voulait diriger par ses fausses prophéties, par ses mensonges diaboliques, sataniques, le procureur, le Sergius Consul, c'est lui qui va se retrouver dans la situation, il ne sait plus où aller. Lui qui se faisait fort d'entraîner les autres dans ses erreurs, voilà un jugement adapté qui le fait réfléchir. Il va devoir à ce moment-là apprendre à découvrir la grâce cachée dans la condamnation et le jugement. Vous avez compris ce que je viens de dire ? Ouais. La grâce cachée dans la condamnation et le jugement. C'est ce qu'on appelle la grâce rétablissante s'il le veut. Ouais. Ça, c'est une des beautés, des mystères de l'évangile de Jésus-Christ. De savoir qu'à travers un jugement, une condamnation, il y a encore la grâce qui nous est proposée. Merveilleux, hein ? Et vous savez que on est au bénéfice de cette grâce sanctifiante tous les jours, hein, parce que on pêche et Dieu nous fait grâce. Et quelquefois, il nous fait passer par des épreuves, il nous fait passer par des temps où nous allons devoir réfléchir à notre chemin, à notre voie et tout ça. Eh ben moi, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction si véritablement je sais la saisir comme telle. Parce que Dieu ne veut pas perdre ses enfants, il ne veut pas perdre ses créatures. Et même un homme comme Élimas, faux prophète, juif, et tout ce que vous voudrez, bien moi je pense que Dieu voulait lui encore lui dire, eh bien écoute, hein, malgré toutes tes turpitudes, malgré toutes ces idées complètement diaboliques et qui viennent de l'enfer, eh bien t'as encore une chance maintenant, je t'ai envoyé mes serviteurs, et à travers ce que tu vas vivre, à travers cet aveuglement, à travers cette cécité, eh bien au moins t'auras les yeux fermés sur le monde, tu ne pourras plus enquiquiner personne, mais maintenant, eh bien tu vas les ouvrir sur toi-même, sur ton âme, sur ta conscience, et tu vas voir où est la différence à ce moment-là. Mais ça, c'est quelque chose qui s'appelle finalement la grâce sanctifiante, et c'est l'expérience, et c'est le moyen que nous appelons la repentance. S'il se repentit, il y a de l'espoir. Tout est permis. Paul lui-même avait fait cette semblable expérience. Lui, le combattant de l'évangile, lui, le combattant de la foi en Jésus-Christ, il a quand même été pendant 3 jours aveugle. Il a fallu que Dieu lui envoie un certain Ananias de Damas pour que véritablement, eh bien là, il comprenne. Et lui, il est devenu véritablement un serviteur de Dieu. Est-ce qu'il était mieux, est-ce qu'il était pire que Élimas? Je ne sais pas. En tous les cas, c'était aussi un criminel, Paul. Hein. Faut pas l'oublier, hein. Il envoyait les gens en prison pour qu'ils soient ensuite condamnés et exécutés. Alors il a découvert la vraie lumière, Paul. Et cela lui a été salutaire. La conclusion, premièrement, le message qui est mis en évidence à travers nos 2 études que nous avons faites sur dévoiler l'invisible, c'est la position de l'Église dans son rôle qu'elle tient ou qu'elle détient pour la délivrance des hommes dans la mesure où elle maintient en éveil ses capacités spirituelles, sa foi, sa ferveur, son ardeur, autour et entretenue par la connaissance de la parole de Dieu, de cet entretien. Cette relation avec Dieu par le Saint-Esprit et ce lien que nous avons par la prière, si vous gardez ça, mes frères et sœurs, vos yeux seront toujours ouverts. Deuxième prévention, la candeur ou la naïveté qui vous amène quelquefois à une sorte de repos tranquille, de passivité même, donc la candeur et la naïveté, des réalités invisibles n'est pas permise au peuple de Dieu. Ne peut pas permettre de fermer les yeux. C'est pas possible. Et il doit y avoir aucune complaisance. Revêtez-vous des armes de l'esprit, des armes de Dieu pour tenir ferme au temps, au jour mauvais. Il n'y a rien à faire. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et c'est dit parce que dans Éphésiens chapitre 6, il nous est parlé des dominations. Ce n'est pas la chair et le sang, mais les principautés, les autorités, des dominations et des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pas pour rien que c'est écrit. Troisième chose, c'est la valeur d'exemple à l'adresse de ceux qui sont réfractaires à la parole de Dieu. Élimas était de cela. Élimas avait entendu Paul prêcher, mais n'avait produit aucun résultat dans son cœur. Au contraire, ça l'avait envenimé davantage à lutter contre Paul et contre Sylla. Il a fallu l'application d'un jugement, donc, tombé aveugle, mais il ne nous est pas dit après ce qu'il est advenu, vous comprenez? On ne sait pas. Le texte s'arrête là. Est-ce qu'il s'est converti? Est-ce qu'il a quitté le palais? Il a baissé pavillon? En tous les cas, il n'avait plus ses yeux. Hein. Ou est-ce que peut-être, à ce moment-là, il s'est révélé à venir vers le Seigneur, à lui demander pardon? Est-ce qu'il a eu cette grâce de demander pardon à Dieu? On ne le sait pas. Mais toujours est-il que ça nous amène à dire cette dernière chose, c'est que l'endurcissement, l'entêtement, l'opiniâtreté, ouais, l'endurcissement est un esprit de perdition orchestré par l'adversaire pour que nous ne parvenions point à découvrir les merveilles de l'évangile de Jésus-Christ. Et il agit dans le monde. Et il agit dans le monde. Mais il fait des tentatives quelquefois dans l'Église. Alors, il nous est simplement dit, et je conclus, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, lui, il était spectateur de tout ça, hein, ça a dû l'étonner, hein, il a cru. Il n'a pas cru en Bar-Jésus, il a cru en Paul, il a cru en Silas, il a cru surtout au message, étant frappé de la doctrine du Seigneur. C'est la doctrine, c'est pas le miracle. La doctrine, la véracité de ce qui était dit, eh bien, c'était la vérité confirmée par un miracle. Et vous savez, c'est pas le miracle qui va nous convaincre. C'est la parole qui donne la foi et qui va produire le miracle. Le miracle est en prime, en quelque sorte, pour dire, voilà, ce qui est là, eh bien, c'est la vérité. Et tu l'as vu, tu l'as connu. Alors, il a été frappé par la doctrine, et c'est une victoire. Et moi, je pense que quand il est dit à mi-mot qu'il a cru par l'expérience qu'il avait faite, moi, je vais voir une conversion de Sergius Paulus, et un homme à ce niveau, un homme à ce stade, procureur de l'Empire, eh bien, a dû lui aussi être un agent du Seigneur pour faire connaître le message de l'Évangile à son entourage et peut-être dans toute l'île de Crète. C'était lui le grand magistrat, c'était lui l'homme fort en quelque sorte. Vous vous rendez compte comment le Seigneur va chercher et quels agents il prend pour confondre les mauvais et pour déblayer le terrain pour que l'Évangile avance? Oui. L'ennemi recule et l'ennemi reculera, il faut que nous le disions, quand la supériorité de Dieu est proclamée, quand elle est affirmée et quand elle est maintenue par l'Église. Frères et sœurs, nous avons du travail, hein. Mais n'ayons pas peur, soyons courageux, mais attendez, hein. On ne se bat pas contre des courants d'air, on ne court pas comme à l'aventure, on se bat contre des puissances mauvaises, on se bat contre des oppositions ténues, déterminé à mettre en échec Jésus et son message, le salut de Dieu. Alors, soyons des soldats, soyons non pas agressifs, mais soyons combatifs par la foi et par l'esprit, alors que Dieu nous donne sa grâce. Et Paul dira, « Mais je prie pour vous, dira-t-il aux Éphésiens, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. » Et quand on le sait, on le porte autour de nous. Et c'est ainsi que la foi se développe et elle se propage. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier à cause de ta bonté, de ta fidélité. Si tu nous as donné ces textes, si tu nous as donné ces messages, eh bien Seigneur, c'est pour que nous comprenions qu'en effet, Seigneur, c'était pas pour ce temps-là seulement, mais c'est encore pour notre temps. Nous avons besoin d'être des hommes remplis du Saint-Esprit. Et nous voulons te demander dans ce moment qui nous rassemble, eh bien Seigneur, rends-nous fervents de l'Esprit, Seigneur. Ta parole nous dit de ne pas nous enivrer de ceci et cela, mais s'il y a véritablement une force, s'il y a une ferveur, s'il y a une ardeur spirituelle saine et sainte, eh bien c'est d'être rempli en effet de la connaissance de ta parole et rempli de ton Saint-Esprit. Et nous te louons et nous te bénissons. Oui, nous avons appris beaucoup de choses, encore une fois de plus, ou rappelé beaucoup de choses. Nous croyons, Seigneur, que tu as tes serviteurs et tu les places là où tu veux, pour délivrer les hommes, Seigneur, qui sont emprisonnés dans toutes ces, Seigneur, dans toutes ces vérités qui sont des vérités spécieuses, c'est-à-dire qui sont des fausses vérités. Et ainsi, Seigneur, d'amener les gens à la connaissance de Christ, à la vraie vie, à la repentance, à une nouvelle naissance, Seigneur, être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et quand bien même nous rencontrons un Élimas sur notre chemin, quand bien même, Seigneur, eh bien, les choses, le traitement qui lui a été infligé, Seigneur, n'était pas un traitement, Seigneur, définitif, mais de l'amener, Seigneur, s'il est possible. En effet, comme bien d'autres cas, Seigneur, dans l'Évangile, eh bien, à revenir à toi et à demander pardon, à prendre conscience, Seigneur, que l'on peut marcher sur une fausse voie, mais qu'on peut revenir de cette fausse voie si nous te demandons pardon. Alors, au nom de Jésus, révèle-toi et manifeste-toi, et moi, je te demande d'encourager mes frères et sœurs à être des soldats de Christ, à être des soldats de la vérité, et de ne pas reculer, d'avoir l'audace, en effet, Seigneur, de marcher, Seigneur, avec toi, et ainsi de nous plier, Seigneur, à ce que tu veux que nous fassions, même dans des situations complexes et difficiles. C'est l'Esprit qui fera tout, et nous voulons véritablement, eh bien, en effet, diminuer pour que toi tu grandisses et que ta force soit proclamée au monde entier. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.